Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Claire Pinto.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, notre débat du jour. Faut-il une nouvelle intervention militaire internationale en Libye? Le pays, vous le savez, est en plein chaos. La Libye est divisée. À l'est, un parlement et un gouvernement reconnus par la communauté internationale. À l'ouest, à Tripoli, l'ancien parlement. Et dans toutes les villes ou presque, des milices qui se combattent. Et puis, des groupes djihadistes aussi, actifs dans toute la région, qui utilisent le désert libyen comme base de repli. 5 pays du Sahel, dont le Tchad et le Niger, ont appelé il y a quelques semaines à une intervention internationale en Libye pour neutraliser ces groupes armés. S'il y a un mandat clair de l'ONU, la France pourrait y participer, a indiqué en substance François Hollande lundi, mais ça n'en prend pas le chemin, a ajouté le président français. Alors faut-il, oui ou non, une intervention militaire internationale en Libye? Et si oui, quelle forme doit-elle prendre? Qui doit-elle viser? Ou bien au contraire, la solution peut-elle être politique? Un dialogue politique est-il encore possible? Exprimez-vous, donnez-nous votre avis, votre analyse. Appelez-nous au 33 9 693 693 70, on en parle dans 30 minutes. Mais d'abord, comme chaque jour, vos questions à la rédaction. Les journalistes d'RFI sont là pour revenir sur un point d'actualité traité à l'antenne. Toufik Benaïchouche du service international est avec nous en studio. Bonjour Toufik.
Bonjour.
Et au standard, Alpha Amadou nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Alpha Amadou.
Bonjour Pierre Pinto, bonjour à tous les auditeurs de RFI et mes meilleurs vœux pour l'équipe technique d'Aperçu de l'actualité.
Bonne année à vous également. Vous avez, Alpha Amadou, des questions à poser à Toufik Benaïchouche concernant la Syrie et cette rencontre entre le régime Assad et l'opposition prévue à Moscou d'ici la fin du mois. On vous écoute.
Oui, j'ai appris sur RFI que le régime syrien accepte de rencontrer l'opposition à Moscou. À ce sujet, j'ai trois questions. Comment est-ce que Moscou est parvenu à faire cette ouverture symbolique? Suite à cette rencontre, peut-on parler de retour en force de Moscou sur la scène internationale? Et comment les Occidentaux vont réagir face à cette ouverture?
Alors, trois questions, Toufik, qui vont nous permettre de faire un point global sur cette situation. C'est vrai qu'à compter du 26 janvier, théoriquement, Moscou accueillera les délégations de l'opposition et du régime syrien pour ressusciter en quelque sorte un dialogue rompu après l'échec de la conférence Genève 2 il y a près d'un an. Rencontre informelle, précise-t-on, à Moscou. Les pays amis de l'opposition ou du régime d'ailleurs ne sont pas invités. Alors la première question d'Alpha Amadou, Toufik, c'est comment Moscou est parvenu à obtenir cette ouverture de la part du régime syrien? Rien.
Si vous voulez, quand il y a un vide, ça a tendance à se remplir et Moscou en profite. Le vide, c'est le vide des initiatives diplomatiques pour essayer de faire asseoir à la même table et le régime de Bachar el-Assad et ses opposants. On n'a plus eu d'initiative de ce type depuis la conférence de Genève, vous l'avez dit, qui a été un échec. Donc, pas d'initiative du camp occidental sur cette question. Il y a bien Stéphane de Mistura, qui a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, qui tente de régler la question syrienne. Son urgence pour lui, c'est de au moins obtenir des cessez-le-feu locaux pour que la tragédie baisse d'un cran. Mais sur le plan diplomatique, il n'y a pas d'initiative. Et donc Moscou profite encore une fois de ce vide laissé par les Occidentaux pour peser de tout son poids, si la Russie le peut. Mais mauvaise nouvelle, l'opposition syrienne, qui est très hétéroclite, vient hier de dire que pas question pour elle, en tout cas pour une grande partie de cette opposition, de faire le voyage à Moscou et de discuter, si vous voulez, d'égal à égal avec le régime syrien.
Donc dans l'œil de l'opposition, Moscou reste d'abord et avant tout l'allié du régime Assad.
Oui, de fait, puisque c'est la Russie qui fournit le régime de Assad en armes. Oui, bien sûr, et puis Moscou s'en cache pas. Mais là, si vous voulez, l'opposition qui est complètement défaite, encore une fois, est sur le plan militaire et donc sur le plan politique. Eh bien, d'abord, elle n'est pas unie, donc elle a peu de chances de peser sur les discussions, même informelles, si ça se déroulait effectivement à Moscou. Et puis, ça l'intéresse pas, donc pour le moment. Et elle a cette opposition qui vient d'élire hier un nouveau président qui s'appelle Khaled Khoja. Eh bien, sa première déclaration qu'il a faite, c'est pas question d'aller à Moscou. beaucoup.
Est-ce qu'on peut imaginer que certains groupes de cette opposition hétéroclite, vous le disiez, acceptent de se rendre à Moscou et légitiment en quelque sorte cette initiative russe?
Oh non, s'il y a quelques groupes, ils pèsent pas énormément, mais je pense pas qu'ils braveront, si vous voulez, cette espèce de consensus qui existe au sein des opposants au régime de Bachar el-Assad. Et même ceux qui soutiennent cette opposition, c'est-à-dire la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, n'ont aucun intérêt pour le moment, en tout cas, à ce qu'il y a des discussions politiques qui soient lancées. Encore une fois, parce que le régime de Bachar el-Assad a une position très forte, il la tient, et ses opposants militaires ne sont pas en mesure de renverser la situation.
Alors ça répond en partie à la deuxième question d'Alpha Amadou, qui portait sur cette situation. Peut-on parler, demandait-il, d'un retour en force de Moscou sur la scène internationale avec cette médiation?
En tout cas, avec ce que Moscou propose, tout le monde sait que s'il y a une volonté politique d'ouvrir des négociations et des discussions pour aboutir à une solution politique, Moscou pèsera de tout son poids et donc a amené le régime de Bachar el-Assad à assister à ce genre de réunions sous certaines conditions. Donc Moscou a vraiment un poids. Et puis souvenez-vous, c'est Moscou qui avait débloqué la situation lorsque on avait établi l'usage d'armes chimiques dans les deux camps d'ailleurs, hein, et que vous savez, vous rappelez, le président des États-Unis avait parlé d'une ligne rouge et qu'il fallait bombarder. Pas de bombardement, la situation était très bloquée. Moscou a sorti de son chapeau le désarmement en matière d'armes chimiques de la Syrie, ce que Bachar el-Assad a accepté. Est-ce que personne ne pouvait refuser? C'était une aubaine pour désarmer la Syrie. Donc Moscou a quand même plusieurs cordes à son arc.
Mmh. Quelle a été la réaction des pays occidentaux vis-à-vis de cette médiation?
Non, plutôt muette. Mais encore une fois, on se fait pas d'illusions. On sait que ça les intéresse pas. Enfin, ça intéresse pas le camp occidental.
On ne salue même pas pour la forme, l'initiative?
Pour le moment, non. Non. C'est-à-dire on se réfugie un peu de manière grandiloquente derrière, on dit que c'est à l'opposition de décider, mais l'opposition, je vous ai dit, refuse pour le moment, et puis ce refus, je veux dire, il est coordonné avec tous les pays qui soutiennent cette opposition. Ça n'intéresse pas pour le moment dans une telle situation, ça n'intéresse pas l'Occident, n'est pas intéressé par l'ouverture d'un dialogue.
Pas invité non plus, en l'occurrence.
Ah, elle peut l'être si ça aboutit, mais on n'en est pas là.
Merci beaucoup, Toufik Ben Aïchouch. Restez avec nous, puisque nous avons Bourema en ligne qui nous appelle de Babougou, mais apparemment on n'arrive pas à établir la connexion, donc je vais me faire son porte-parole. Bourema qui a des questions sur un autre sujet qui est lié quelque part, sur la question kurde. Il y a 3 semaines, une offensive kurde est parvenue à briser le siège de l'organisation État islamique sur le mont Sinjar en Irak, libérant par la même occasion les Yazidis étaient réfugiés depuis le mois d'août, il me semble. Et cette offensive a eu ceci de notable, Toufik, qu'elle a été menée à la fois par des Kurdes irakiens, les Peshmerga, et par des Kurdes turcs du PKK. L'occasion donc de revenir sur d'abord tous les groupes kurdes qui sont présents dans cette région et qui combattent ensemble, côte à côte, ou enfin plus ou moins. La question de Bourema était celle-ci. Les Kurdes turcs du PKK combattent auprès des Kurdes irakiens contre l'État islamique, avec le soutien de la coalition internationale. Quelles conséquences tout cela peut-il avoir sur les velléités d'indépendance kurde en Turquie?
Ah, une grande question.
Alors d'abord peut-être un point,
oui.
Qui et où?
Écoutez, moi je pense que pour répondre à cette question, il est plus simple de se mettre du point de vue kurde vraiment. Si vous voulez, si vous considérez le peuple kurde, c'est 40 millions de personnes. Et c'est un peuple qui est sans État. Donc c'est sans doute la plus grande population au monde qui n'a pas d'État à l'heure actuelle. Alors ils sont répartis, ces 40 millions grosso modo, entre 4 pays. Vous avez les Kurdes d'Iran, qui avaient essayé de créer une entité kurde dans les années 40, et ça a été très vite réprimé par le Shah d'Iran. Et il n'y a pas de mystère, il y a toujours une espèce de continuité de la politique pour l'Iran sur ce sujet-là. Et bien les Mollahs ensuite ont suivi la même politique. Ensuite, vous avez des Kurdes en Irak. Vous parliez de ces derniers-là. Ils sont au nord, donc dans le Kurdistan irakien, Et
ce qu'on appelle les Peshmerga.
Tout à fait, voilà, les Peshmerga, c'est des combattants aguerris qui se sont battus de tout temps contre le régime de Saddam Hussein, etc. Et qui, à la faveur des guerres, au moins de la première guerre du Golfe, avaient obtenu un statut, une très large autonomie que leur avait conféré d'ailleurs le régime irakien, Saddam Hussein lui-même. Bon, Saddam Hussein a mis du temps à effectivement appliquer cette autonomie, mais le principe était acquis. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les communautés kurdes, c'est sans doute celle qui a un embryon d'État, qui a un parlement, qui a une vraie vie politique avec deux grands partis, et surtout qui a pu asseoir une vraie institution, qui a pu créer des vraies institutions et qui sont très très proches, enfin s'ils le veulent, hein, je veux pas créer de guerre, qui sont pas très loin d'une éventuelle indépendance. Pour le moment, on n'en est pas là, mais en tout cas, ils sont assis sur un vrai coffre-fort qui est le pétrole, qui est dans la région du Kurdistan irakien, donc au nord de l'Irak. Et avec cet argent, ils ont développé une vraie région, une vraie entité. Et comble de l'ironie, ils s'entendent très bien avec les Turcs. Les Turcs dont, si vous voulez, pour les Turcs, le plus grand cauchemar, c'est les Kurdes. Donc, et ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien, et il y a eu une entente toujours entre les Kurdes d'Irak et la Turquie pour qu'ils n'empiètent pas et qu'ils ne font pas la jonction, si vous voulez, avec les Kurdes de Turquie, avec le PKK.
Donc on peut imaginer que les relations entre le PKK et les Kurdes d'Irak soient pas toujours au beau fixe.
Alors après, c'est une question de stratégie. Les Kurdes du Kurdistan irakien considèrent que c'est un acquis qu'il faut pas perdre, leur statut. Donc surtout pas entrer en guerre avec le voisin turc. Et alors évidemment les Kurdes de Turquie sont pas toujours d'accord, mais enfin il y a quand même une vraie solidarité, et notamment une solidarité des armes quand il s'agit de défendre les intérêts de la nation kurde.
Alors les Kurdes de Turquie, justement, qu'est-ce que ça peut avoir tout ça comme conséquence sur leur velléité, leur revendication d'indépendance?
Pour le moment, aucune, parce que la Turquie gère le dossier kurde turc d'une main de fer. Leur leader est toujours en prison, à Pau, au Tchalan, pour les moins intimes de la question. Et par exemple, on le voit pour la bataille de Kobané, la Turquie a mis énormément de temps à laisser passer des combattants kurdes irakiens vers Kobané pour venir en aide aux Kurdes de Syrie. Donc la Turquie jouera de tout son poids pour éviter des velléités d'autonomie dans tous ses voisins, et y compris sur son territoire. Par exemple, pour les Kurdes de Syrie. Les Kurdes de Syrie se battent, on le voit, à Kobané depuis des mois, et il ne faut pas oublier que c'est en fait la guerre qui débouche ensuite, généralement, sur une autonomie importante et ou pas. Mmh. Et c'est ce que tente de contrecarrer à la fois le régime turc et évidemment le régime syrien. Pour les Kurdes de Syrie.
Merci beaucoup, Toufik Benaïchouch, pour toutes ces précisions. Et merci à Bourema, qui malheureusement n'a pas pu poser sa question en direct à cause de la ligne téléphonique. Nous repassons au standard 33 9 693 693 70, où nous attend Dava. Bonjour Dava.
Bonjour. Yeah. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Bamako, vous avez des questions à poser sur la Russie avec l'affaire Navalny, au sujet de la condamnation des deux frères Navalny. Et pour vous répondre, est en studio avec nous Tudor Tepeneag. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Merci d'être là. Dava, posez votre question, on vous écoute et nous y répondrons juste ensuite.
Alors, concernant l'affaire Navalny en Russie, qu'on en est tout récemment après une manifestation, je veux savoir pourquoi les frères Navalny sont-ils dérangeants pour Poutine. Ça, c'est la première question. Mm-hmm. Ma deuxième question, en quoi Navalny s'oppose-t-il à la politique de Poutine? Et cette arrestation donnera-t-il une popularité aux frères Navalny?
D'accord. C'est vrai que les frères Navalny, hein, replaçons un peu les choses rapidement dans le contexte, les frères Navalny condamnés dans une affaire de malversation contre une succursale russe du groupe cosmétique français Yves Rocher, pour l'opposition, en condamnant Oleg Navalny à 3 ans et demi de prison, le pouvoir cherche en fait à museler son frère Alexei, ennemi politique de Poutine, condamné lui à du sursis. Hier d'ailleurs, Alexei Navalny a défié les autorités, je crois, en coupant son son bracelet électronique pour signifier qu'il n'acceptait plus sa mise en résidence surveillée. La première question de Dava Tudor, c'est en quoi ses frères Navalny sont-ils si dérangeants pour Vladimir Poutine?
Oui, eh bien, il s'agit surtout d'Alexei Navalny qui est dérangeant dans une Russie dont on dit que, enfin, le pouvoir de Poutine n'a pas d'opposant actuellement en Russie. Lui, c'est quand même l'opposant à Vladimir Poutine. Et donc, de ce fait, il est dérangeant pour le pouvoir. Il s'est opposé depuis bien des années. Il faut se rappeler déjà des années 2011-2012, lorsque à la fois aux élections législatives et puis aux élections présidentielles qui ont vu le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, Alexei Navalny était en première ligne. D'abord sur la toile, donc il était connu comme auteur d'un blog dans lequel il dénonçait surtout les faits de corruption du pouvoir, donc de Poutine, parce qu'il s'agit bien de lui et puis de tout un régime, de tout un système qui est corrompu. Et donc il s'est opposé de cette façon-là. Ensuite, il a été candidat à la mairie de Moscou en 2013 et il a été battu par le candidat de Poutine. Lui, il a contesté les résultats. Il a été battu assez largement, on va dire. Bon, il a contesté, mais des observateurs ont dit que finalement, bon, il n'y avait pas eu de fraude si massive, d'où la question quel est le soutien populaire réel dont Navalny jouit. Évidemment, c'est une question. Probablement qu'il a un soutien limité à Moscou et aux grandes villes, notamment, mais on a bien vu avec cette élection pour le poste de maire de Moscou que même à Moscou, il n'y a pas eu de raz-de-marée en sa faveur. Donc voilà, il est connu sans doute par les gens instruits, par les entrepreneurs. Et puis, une deuxième chose qu'il faut rappeler surtout aujourd'hui, c'est qu'avec la crise en Ukraine, Vladimir Poutine a eu un regain de popularité. Ce sentiment, ce réflexe, on peut dire nationaliste des Russes qui ont été d'ailleurs bien travaillés par une propagande les présentant la Russie comme une forteresse assiégée. Donc ce réflexe de se ressouder autour du chef fort de Vladimir Poutine qui défend la Russie et ses intérêts. Et du coup, tous ses opposants, y compris Navalny, sont un peu entrés dans l'ombre.
Mais ce nationalisme, Navalny s'en revendique lui aussi, non ?
Oui, il s'en revendique. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a une partie de l'ambiguïté dont on parle à son sujet. C'est-à-dire qu'il est surtout contre les étrangers. Il a participé à plusieurs manifestations. Il a publié des slogans contre les étrangers. Ce qu'on appelle les étrangers en Russie, c'est surtout les gens venant du Caucase. Donc en fait de l'ancien empire russe, mais qui sont là, qui sont présents et que l'on dénonce parfois. Bon, ils viennent chipper le travail des Russes, etc.
Donc soutient aussi l'annexion de la Crimée, je crois.
Oui, il a dit que s'il devait arriver au pouvoir, il ne rendrait pas la Crimée. Mais bon, il s'est expliqué un peu. Il a dit que la Crimée et que l'Ukraine en général ne devait pas être l'objet d'un troc permanent où il faut prendre, rendre, etc. Mais somme toute, il est assez nationaliste. Est-ce que c'est sa conviction profonde? Est-ce que c'est aussi par une espèce de conformisme? Parce qu'il sait bien que les Russes sont très nationalistes et il veut les caresser dans le sens du poil. Ça, on le saura peut-être plus tard.
En 30 secondes, Tudor, est-ce que cette condamnation des frères Navalny ne joue pas en faveur de leur popularité?
Oui, c'est ce qu'on peut se dire, mais on ne sait pas. Encore une fois, il faudra que le contexte politique change un peu. Il faudra qu'on ait des élections libres, que les Russes puissent s'exprimer et que pour cela plusieurs conditions soient réunies, des médias un peu plus libres, c'est-à-dire des chances pour que les opposants s'affirment, se fassent connaître et qu'ils puissent avoir donc une chance réelle d'arriver au pouvoir. Donc oui, en faveur de la popularité de Navalny, mais on verra comment ça pourrait se concrétiser.
Bien, merci beaucoup Tudor Tepemeag, merci à Dava qui nous appelait de Bamako pour nous poser cette question sur les frères Navalny. Restez avec nous dans quelques secondes, l'actualité africaine.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture. Priorité.